Le Harizal dit qu'il ne faut pas le faire. Darwin, évidemment, aussi, mais même le Harizal dit qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas répéter le vidou. Le Gaon de Vilna, il pense même que dans la Amida, dans la Shemoneh Esrei à voix basse, on a fait le vidou déjà. À la fin de la Tfila, il y a le Shamnouf et Al-Khet. Mais quand le Shliar Tzibur répète, quand il arrive dans la répétition à de nouveau au vidouille, etc., les gens, ils refont le vidouille. Le Gaon dit qu'il ne faut pas le faire. Pour cette raison-là, parce que il ne faut pas répéter. C'est vrai que quand on répète souvent le vidouille, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire. Bon, si tu as déjà dit, on a déjà dit le soir, on l'a dit à Shacharit, matin, y compris dans la répétition, on le dit à Moussaf, à Mincha, on n'en peut plus, quoi. C'est déjà, c'est beaucoup. C'est... Alors, il existe toutes sortes de listes de fautes. Mais bon, il faut faire attention que ce ne soit pas la lecture d'une liste, comme on l'a dit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans le vidouille. La raison, pour laquelle on dit on a ces listes, même Hachamnu, c'est une liste. Hachamnu, Bagadnu, c'est une liste alphabétique. La raison pour laquelle, justement, on s'est dit on le fait de cette manière-là, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, quand on se confesse, on veut pas que l'autre entende. Ma confession, elle doit être, il faut évidemment pas que l'autre entende, parce que si l'autre entend, ça m'empêche de dire la vérité, de dire certaines choses. Mais à part ça, c'est une relation privée, en quelque sorte, avec Hachem. Et alors, comment on fait? Le voisin, la synagogue, votre voisine, là, elle entend tout ce que vous dites. Normalement, dans la Amida, elle doit se dire de telle sorte que j'entends ce que je dis, mais pas, prier avec les yeux. Il faut dire ce qu'on dit. Alors, en général, on ne le dit pas complètement à voix haute parce que ça dérange. Alors, on le dit, mais celui qui est à côté, il entend. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, alors on va dire tous la même chose. On va faire une liste alphabétique et on dise tous la même chose. Même si l'autre, il entend que j'ai dit Hachamnu, Bagadnu, alors voilà, j'ai dit ça. Alors, mais lui aussi, il le dit. Et chacun pense, quand on dit ça, il pense, est-ce que vraiment ça me concerne? On a mis des choses qui, a priori, ne concernent pas tout le monde dans la liste. On n'a pas tous tué son voisin. Il y a des gens qui l'ont pas fait. Je veux dire, et donc, il y a des choses, où on dit des choses très, très fortes et qui ne sont pas obligatoirement des choses qu'on a faites, ou en tout cas, on les a peut-être pas faites au sens le plus grave. Enfin, on espère. Et alors, bon, il faut penser quand on le dit, quand je dis ce mot-là, cette faute-là, elle me concerne. Donc, ça doit faire, je regrette vraiment, je confesse en disant, Bagadnu, ça veut dire on s'est révolté. Et voilà, je me suis révolté, ça veut dire j'ai fait cette faute-là à un moment où j'en avais marre que Hachem il me laisse pas faire ceci ou pas ça. Bon, il faut y penser. Parce que si tu lis la chose comme une prière, t'as rien fait du tout. Hein. Ceci mis à part, je pense qu'il est assez évident que la confession elle peut pas se faire dans une langue qu'on comprend pas. Si la tefila, on peut la faire dans toutes les langues. Parce que, bon, même si on ne comprend pas tout ce qu'on dit, ce n'est pas très grave, parce que les Anshei Knesset Gdola, les rédacteurs de la tefila, ont mis suffisamment de contenu dans les mots seuls. Quand ils sont. Le seul fait qu'on a dit les mots, c'est déjà une grande chose. Mais dans la confession, ça n'a pas de sens. Si tu dis des mots, vous pouvez le dire en sanskrit ou je ne sais pas quoi, est-ce que la langue que vous ne connaissez pas, et ça, Donc, il faut évidemment dire la confession, le Hachamnou et peut-être l'Alchet aussi, en français pour celles d'entre vous qui parlent français, qui comprennent le français. Et celles qui comprennent parfaitement le l'hébreu peuvent le dire en hébreu. Mais si vous ne comprenez pas vraiment ce que vous dites, ça n'a strictement aucun sens. Vous comprenez bien que ce n'est pas une confession si je ne sais pas ce que je dis. Et on ne va pas dire que parce que on a mis les Gaonim, ils ont décidé de choisir cette formulation, de, etc., que voilà, ils ont mis suffisamment de telle sorte que ça inclut la confession de tout le monde, même si on n'y pense pas. Ce n'est pas vrai. La confession, comme on l'a vu, ça doit être l'aboutissement de tout un processus. Si je lis une liste, ça n'a strictement aucun intérêt. Je n'ai pas fait de confession. Je pense que là-dessus, personne ne contestera une chose pareille. Odile, vous disiez quelque chose ?
Oui, allez-y. C'est Odile. D'abord, la Hazara du bidouille, elle sert à qui ? Premièrement. Et deuxièmement, j'avais entendu que de dire le bidouille vite, c'était aussi une façon de, comme on cite les diplés ou comme on cite pour pas se délecter. C'est-à-dire, c'est pas la peine non plus de s'apesantir sur chaque mot et de alors voilà, il y a deux mouvements. Vous expliquez qu'il faut au contraire, penser à chaque mot et voir quelle faute on a pu faire à travers ce mot. Et il y en a d'autres qui disent qu'il faut tout dire d'un seul trait et ne pas s'apesantir.
Alors, je vous dis, j'ai dit les deux choses. Enfin, il y a deux côtés. Il faut évidemment qu'il y ait une vraie confession, c'est-à-dire où je sais ce que je dis et je pense à ce que je dis, parce que si je ne pense pas à ce que je dis, il n'y a pas de confession, ça n'a pas de sens. Le mot confession, il veut dire évidouille, ça veut vraiment dire confession. Ça n'a pas de sens si je ne pense pas ce que je dis. Maintenant, le côté de ne pas s'apesantir, ce n'est pas s'apesantir, mais c'est ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'il ne faut pas répéter. C'est pour ça que là où il y a dans le Marzor, je connais seulement ce qui est dit dans le Marzor, peut-être dans le Marzor Sfarad, ce n'est pas dit trois fois, mais je crois que malheureusement, oui. En tout cas, le Harizal, il dit qu'il ne faut pas les dire trois fois à ce moment-là. Mais par contre, une fois, oui. Mais c'est le problème, les Chachamim ont décidé qu'il fallait le dire cinq. Il y a cinq tfilotes et on le dit dans toutes les tfilotes. Alors maintenant, vous avez posé là une bonne question. À quoi sert la répétition? La répétition, en principe, elle sert pour des gens qui ne savent pas. La répétition, elle a été instaurée pour des gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas parler, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas dire. Alors, on leur dit d'écouter. Mais ils ne savent peut-être pas lire, mais ils comprennent ce qu'on dit, quoi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et ils sont censés suivre et dire amen au brachot. Maintenant, dans le processus, il y a la confession. Alors, à ce moment-là, il faudrait leur dire à ces gens qui ne savent pas, ben voilà, vous ouvrez votre marzor avec traduction française, et à ce moment-là, vous lisez vous-même en parallèle, au moment où lui il lit la chose en hébreu, vous lisez en français. Et ça, le fait qu'on le dise à toutes les tfilotes, ça c'est, les Chachamim ont décidé comme ça. Alors je vous dis, il y a des gens qui, la plupart des gens refont le vidouille en même temps que la Hazara, dans la Hazara. Le Gaon de Vilna dit qu'il ne faut pas le faire. Et je ne vous dis pas de ne pas le faire. Hein. Faites comme tout le monde le refait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors maintenant, le dire très vite, je ne crois pas. Le dire une seule fois et très vite, ça n'a rien à voir. Les plaies, c'est notre affaire. Les plaies, c'est ceux que, quand on ne veut pas s'apesantir là-dessus, parce que ces plaies, elles ont frappé les Égyptiens, mais ne faut pas oublier que nous, quand on était en Égypte, on était aussi Ovdé Avodazara. Donc, c'est à chaque fois un miracle que les plaies ne nous aient pas frappés. Parce que nous aussi, on méritait, pas pour les mêmes choses que ce que les Égyptiens ont fait, mais nous aussi, on méritait de pâtir aussi de ce qui se passait. Et parce qu'on était aussi idolâtres, comme les anges l'ont dit, y compris au moment du passage de la mer. Vous vous souvenez, les anges ont dit, mais ceux-là sont idolâtres et ceux-là sont idolâtres. Pourquoi tu sauves les uns et tu ne sauves pas les autres? Et Hachem a donné une réponse, mais elle n'est pas terrible. La réponse, elle est que, bon, ils vont accepter la Torah, mais bon, ça pose toutes sortes de problèmes. Sauver quelqu'un parce que dans le futur, bon, au moment du jugement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je vous dis, il y a les deux opinions, là, sont dans la Braïta, dans le texte là, que je vous ai lu de la Gemara. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est la position des Rabbanan qui disent justement que qu'il faut pas répéter. Et ils disent c'est très dur ce qu'ils disent. Dire que celui qui répète, c'est comme un chien qui vient lécher son vomi, quelque part. Ça veut dire il y a effectivement une certaine jouissance dans le fait de parler des fautes qu'on a faites. C'est des phénomènes qui existent. Des gens, par exemple, qui ont fait tchouva ensemble et qui, je sais pas, de fil en aiguille, une fois à un repas ou des choses comme ça, ils se mettent à grainer les souvenirs de tiens, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et ils racontent toutes les bêtises qu'ils faisaient, enfin tous les interdits. Et on sourit, on rit, et voilà. C'est pas tellement évident qu'ils sont pas en train de prendre du plaisir à ce récit. C'est vrai qu'on fait plus ça, mais ça nous rappelle qu'en son temps, quand on l'a vécu, on prenait bien du plaisir à faire ces bêtises qu'on a faites. Et donc c'est ça, c'est l'histoire de le chien qui vient lécher son vomi. C'est une façon de l'imbécile, il répète ses fautes, quoi, Alors c'est un peu paradoxal parce que là, c'est la répétition non pas des fautes, mais du récit de la faute qu'il y a dans le vidouille. Je dis voilà la faute que j'ai faite, et puis maintenant je vais le redire une deuxième fois quelque part. C'est comme si dans sa tête, on revivait la faute, la situation qui... Alors, c'est sûr que tout ce processus, c'est un processus très, très difficile à comprendre, ce processus de tshuva. Comment la tshuva peut-elle réparer le passé? En théorie, ça n'a pas de sens. Ce qui a été, je veux dire. Alors, quand on fait une faute et qu'on fait tshuva, ça répare. Tout n'est pas toujours tout de suite réparé. La tshuva ne répare pas obligatoirement à elle toute seule. La faute. La première faute qui a été faite, elle a été faite par Adam Chava, donc ces deux-là. Et on dit que Adam, donc Chava aussi, ont fait tshuva pendant tout le temps, tout 330 ans, ils ont fait tshuva. Mais avec toute la tshuva qu'ils ont faite, ils sont restés mortels. Or, devenir mortel, c'était la sanction de la faute. Ils ont fait tshuva sur la faute. La tshuva a été reçue, mais ça n'a pas enlevé le caractère mortel. Quand est-ce que ce caractère mortel, conséquence de la faute d'Adam, a disparu? Alors, c'est quand on est redevenu immortel, mais ça vous savez, c'est ce qui s'est passé à Matan Torah. Ça veut dire qu'il y a eu tout un processus. Il y a eu Abraham, les Avot, le Galut Mitzrayim, la Yetziat Mitzrayim, etc. Et le Sinaï. Et au Sinaï, voilà, au Sinaï, toute cette période-là, donc, qui commence avec, c'est surtout Abraham qui a commencé à essayer de réparer la faute d'Adam. Réparer, c'est-à-dire réparer le côté mortel. Et on est redevenu immortel. Mais malheureusement, on a refait la faute du veau d'or. On fait la faute du veau d'or, qui est une deuxième édition quasiment de la faute d'Adam Harishon, et qui a eu les mêmes conséquences. Et on est retombé dans la condition des mortels. C'est pour ça que nous sommes mortels. Et là, à-t-il de la veau, on accédera de nouveau à l'immortalité. Donc ça, c'est une première chose, parce que des fois, il faut faire tshuva, il faut peut-être la tshuva spécifique de Yom Kippour, parce que la tshuva, elle est bonne tout le temps. Hein. Normalement, la Gemara, elle dit que si tu vois quelqu'un, Talmid Racham, qui a fait une faute aujourd'hui, demain, tu ne peux pas lui en parler, parce que c'est sûr qu'il a fait tshuva. Et je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un les fautes qu'il a commises. De même qu'on n'a pas le droit de rappeler à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a fait un guillour, on n'a pas le droit de lui rappeler qu'avant le guillour, il était éventuellement idolâtre. On n'a pas le droit. En général, le Lashon Hara, on n'a pas le droit de le pratiquer par rapport à soi-même non plus. Donc, c'est pas soi-même, on n'a pas le droit non plus de le raconter. On ne peut pas raconter le Lashon Hara sur soi-même non plus. C'est juste dans la mitzvah de vidouille, j'ai le droit, bien que ça me dégoûte éventuellement, mais il faut bien que je reconnaisse. Donc, c'est ça qu'est-ce qu'apporte le vidouille? Le vidouille, c'est une expression, c'est une façon aussi de ce travail qui a été fait, qui est un bouleversement intérieur, de le mettre la faute à l'extérieur, parce que finalement, couper avec une faute, prendre la mesure exacte de ce qu'était la faute, c'est plus facile quand la faute est devant moi que quand elle est en moi. En nous, c'est toujours un peu flou. Mais là, la faute est dite, donc elle est exprimée. Donc là, voilà, je la vois. Je fais la faute X numéro 14, là, voilà, elle est faite. Elle est là, et je peux prendre de la distance. C'est vraiment dégoûtant.
Rav Kronstein ?
Oui, je suis là.
Pour la répétition du vidéo, il n'y aurait pas l'idée que en fait, à chaque fois qu'on répète, on a une prise de conscience supplémentaire de la faute qui fait qu'on aurait une expression à chaque fois plus précise de ce qu'on a justement à regretter et à exprimer.
C'est peut-être la position de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, dit ce que David Ameller faisait, c'est-à-dire, David Améler, il n'a pas ressassé la faute qu'il a faite. Vous avez certainement raison. Il a certainement, quand on dit « j'ai la faute toujours devant moi », c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il avançait dans la compréhension du monde, etc., il avait une compréhension plus profonde de la gravité de la faute qu'il avait commise. Vous avez tout à fait raison. Simplement, on voit que les Chachamim, avec tout ça, ils disent « mais c'est pas le jeu n'en vaut pas la chandelle, il vaut mieux pas répéter. » Le répéter, ça veut dire qu'éventuellement, y penser, c'est possible. Ce qu'on dit ici, c'est le répéter, le vidouille. Mais peut-être que c'est ça qui est interdit. Mais effectivement, y penser, se dire, mais et voilà, bon, il y avait encore cette dimension-là. Alors peut-être que à ce moment-là, il faudrait, si vraiment on a compris qu'il y a une dimension qui m'a complètement échappé, donc j'ai pas vraiment fait, je peux me penser que j'ai pas vraiment fait tchouva. Donc sur cette dimension-là, ce sera pas une répétition. Bon, c'est-à-dire que si on vous suit, on peut imaginer que en y réfléchissant à nouveau, on s'aperçoit que c'est vrai, j'ai fait tchouva parce que je voyais que bon, ça avait cette gravité-là, mais j'ai pas pris en compte, par exemple, que ça allait blesser telle ou telle personne, etc. Alors peut-être qu'effectivement, il faille un vidouille sur le fait que cette faute que j'ai commise, elle l'a blessé aussi telle ou telle personne. C'est comme on rouvre une enquête parce qu'il y a des faits nouveaux. C'est sûr que si j'ai vu des choses nouvelles auxquelles je n'ai pas du tout pensé, si, je ne sais pas, ça va être très fin à discuter si c'est simplement un approfondissement ou bien c'est vraiment un élément nouveau. C'est ce qui se passe quand on se demande si on va réouvrir une enquête, ça veut dire est-ce que c'est encore un petit truc ou est-ce que c'est vraiment un fait nouveau qui justifie la réouverture de l'enquête. Donc, la réouverture d'un processus de tchouva, parce que, en fait, c'est presque comme si c'était une autre faute que je venais confesser. Et maintenant, si c'est simplement une petite progression, alors peut-être c'est ça la chita de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si vous voulez, l'être humain, il a toujours, il y a toujours les deux choses. On pourrait dire qu'ils ne sont pas obligatoirement en conflit, les Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Seulement, lui, il y a plus forte raison quand il répète. Il est digne d'éloge parce que ça montre qu'il a en permanence cette faute devant lui. Et j'en ai bien conscience, pareil, à Nieda, je sais bien les fautes que j'ai faites. Voilà, je les sens bien devant moi et j'en ai pleine conscience. Alors cette mitzvah, alors comme toujours, enfin comme souvent, vous avez probablement remarqué que dans le verset, dans l'introduction là de ce qu'on a lu, qui a mitzvah hazot asher anochi mitzvacha hayom lo nifleti, etc. Toujours ce hayom. Qui est le même hayom que dans Kriyat Shema, etc. Ce hayom qui revient tout le temps et qui, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit hayom, ça fait longtemps qu'il aura expliqué toutes les mitzvot. Si on dit que ça parle de toutes les mitzvot de la Torah, c'est pas hayom. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi hayom? Hayom, c'est toujours ce qui nous est demandé, c'est de vivre toutes les mitzvot comme si elles venaient de nous être données. C'est-à-dire avec toute l'énergie, avec toute la fraîcheur qu'on a quand on fait une mitzvah pour la première fois. Il y a un risque, justement. D'accord. Il y a un risque, à la limite, de se dire, OK, j'ai fait cette faute, et disons à l'Arabi Eliezer ben Yaakov, OK, j'ai déjà confessé la faute l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, combien de temps quand je vais. Et les mitzvot aussi, j'ai déjà fait la mitzvah hier, ou la semaine dernière, ou le mois dernier, ou l'an dernier, etc. Il peut y avoir une certaine lassitude, en quelque sorte. Et la Torah, elle nous met en garde contre cette attitude. Eh bien, elle nous dit, n'oublie pas que tu dois le vivre comme c'est hayom, c'est aujourd'hui que je te le donne. Le hayom, c'est un hayom que nous devons fabriqué tous les jours. C'est tous les jours, Ayom. C'est tous les jours, aujourd'hui. Donc chaque mitzvah doit toujours être vécu comme quelque chose de nouveau. Ça s'adresse à moi avec le vécu que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas le même que celui que j'avais l'an dernier ou la semaine dernière même. Et donc, on est toujours un autre en réalité. C'est ça, si vous voulez, le paradoxe de l'être humain, c'est qu'on n'arrête pas de changer, nos cellules n'arrêtent pas de mourir et de se renouveler, etc. Au bout de 7 ans, on n'a presque plus une cellule de celle qu'on avait au départ. Il y a des choses qui restent, mais en gros, on peut dire tout a changé. Et pourtant, je suis resté le même, je suis le même. Et donc, il y a ce paradoxe. On est le même tout en changeant complètement. Et bien, d'abord, je m'identifie à ce que je suis aujourd'hui, comme c'était aussi moi il y a 50 ans, enfin, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et donc, le aujourd'hui est à travailler, c'est-à-dire, faut aujourd'hui, c'est-à-dire, réfléchir. C'est vrai que tu as déjà fait la mitzvah, mais la mitzvah, tu l'as faite dans d'autres circonstances. Tu l'as faite avant le Covid, et maintenant tu l'as fait, et tu l'as fait pendant le Covid, ou bien tu l'as fait après le Covid. Tu l'as fait quand tu étais étudiant, et maintenant tu. Non, c'est tes enfants qui sont étudiants. Donc, on a des situations de vie qui sont complètement différentes, qui, en vérité, sans qu'on s'appesantisse là-dessus, font que les vies de soi, on les vit différemment. Et ce serait une grosse erreur d'essayer de les vivre tout le temps, tous les jours de la même manière. C'est pas ce que la Torah veut. La Torah, elle veut que ce soit vivant, et donc, comme la vie, elle se renouvelle sans cesse, il faut travailler pour que ce soit chaque fois nouveau. Alors, je vous ai déjà dit souvent, il ne s'agit pas d'une semaine sur l'autre d'allumer les nérodes de Shabbat en faisant le poirier. C'est pas obligatoirement comme ça qu'on vous demande de le faire. C'est pas ce genre de changement ou de hayom qu'il faut développer, mais c'est prendre, ne serait-ce que prendre conscience de ce qui s'est passé dans la semaine et entre le dernier allumage de Nérod de Shabbat et celui de ce Shabbat, par exemple. Pour prendre cet exemple-là, mais c'est vrai dans toutes les mitzvot. On a tout est changé, on a des situations familiales différentes, on a un environnement différent, on a des conditions sociales, économiques, climatiques, etc., différentes. On a des informations qui concernent le reste du monde qu'on n'avait pas avant, etc. Tout change en permanence. Et le Hayom veut dire, tu dois vivre la mitzvah aujourd'hui, avec ce que tu es, avec la richesse de ta personnalité. C'est une chose. Ensuite, je voulais juste revenir sur un autre point. L'idée est toujours de savoir, mais comment ça marche, cette tshuva? C'est un peu paradoxal. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses soient, que le mal soit annulé? On a même une shita qui dit que si on fait tshuva mais ahava, par amour, non seulement les fautes sont annulées, mais les fautes sont transformées en mitzvot. Si vous voulez, symboliquement, si on était à moins 35, on se retrouve à plus 35. Et comment ça marche, cette histoire? Alors, je crois que j'ai déjà enseigné ça, mais pas tout le monde. Le Rav Moshe Cordovero, c'était un des kabbalistes de l'époque du Harizal, c'est-à-dire de l'école de Tzfat. Alors, Moshe Cordovero, il a créé un sefer qui s'appelle Tomer Dvora, le palmier de Dvora. Je crois qu'il est traduit en français chez Verdier, je crois. C'est un sefer qui s'occupe des Shlosh Esre Midot, qui s'occupe des 13 attributs de miséricorde, comme on dit, ou quelque chose comme ça. Et dans ce qu'on dit, dans ces midotes-là, on parle d'Hachem et on dit qu'il est Nosé Avon. Il porte le Avon. Avon, ça veut dire la faute. Avon, c'est une sorte de faute. Il y a 3 degrés de faute. Il y a Chet, Avon et Pesha. C'est les 3 choses que le Kohen Gadol, quand le Kohen Gadol faisait le vidouille au nom de toute la communauté à Yom Kippour, sur le bouc qu'il allait envoyer ensuite à Azazel, enfin, autour de ça, les aspersions de sang qu'il faisait avec l'autre bouc, évidemment. Et alors, il disait dans la confession, au nom d'Ebné Israël, Chatou, Avou, Pachou, Amcha Bet Israël, ils ont fait Chet, Avon et Pesha, le clan d'Israël, et ils demandaient que Hachem leur pardonne. C'est la confession. Alors, Nosé Avon, Hachem porte la faute. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il porte la faute? L'homme fait des fautes et c'est Hachem qui porte la faute. Alors le Ramak, Ramoshé Cordovero, il explique qu'en réalité, ça on a déjà vu, que toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles ont un impact. Ça, on en a déjà parlé souvent. Et quand on fait une faute, l'impact, disons, lui, il appelle ça, ça crée un malach, donc ça crée une trace qui est une, ça détruit quelque chose de spirituel, donc ça crée du négatif spirituel. Et ce négatif spirituel, on va l'appeler un malach. C'est comme tous les malachim, ce sont des créatures célestes, mais qui ont besoin d'une nourriture, comme toutes les créatures. Bien sûr, leur nourriture, elle est spirituelle, elle est pas, on ne leur donne pas un sandwich pour la journée, mais ils ont besoin de nourriture, une nourriture spirituelle. Et quand l'homme faute, il crée un malach, et ce malach s'appelle Avon. Et comme tous les malachim, il est nourri par, enfin, il va chez Hachem parce que c'est Hachem qui nourrit les malachim. Mais quand il arrive chez Hachem, Hachem lui dit, mais va, ne viens pas chez moi, va chez celui qui t'a créé pour que lui te nourrisse. Mais si le malach en question, il allait chez celui qui l'a créé, c'est-à-dire chez l'homme qui a fait la faute, et il va lui demander une nourriture spirituelle, l'homme qui a fait la faute, il n'a rien d'autre à lui donner de spirituel que sa neshama à lui. Donc il allait mourir. C'est l'idée que, en fait, à partir du moment où on ne respecte pas la règle du jeu qu'Hachem a mise pour laisser l'homme dans le monde, il n'y a plus de raison de continuer de vivre dans le monde, donc on devrait mourir. Alors, ce qu'on dit quand on dit l'éloge de la tendresse d'Hachem pour le monde, c'est 13 degrés de tendresse, mesure de tendresse, c'est qu'il est nocé avant, c'est-à-dire, en fait, c'est lui. Hachem va, pendant un certain temps, il va porter, c'est-à-dire, il va nourrir le Havon. Bien que, normalement, c'est celui qui l'a créé qui devrait le nourrir, mais Hachem va le nourrir pendant un certain temps. Alors, le certain temps en question, c'est un temps qui est donné à l'homme. C'est ça le processus de rachamim, de tendresse. C'est un temps qui est donné à l'homme pour faire tshuva, c'est-à-dire pour devenir autre. Ce qui fait tshuva, il devient autre, comme on l'a dit. Ok. Alors, quand l'homme est devenu autre, s'il a fait tshuva, donc, ben Hachem dit au malach en question, il dit, on a maintenant, Avon, je te nourris plus, va chez celui qui t'a créé. Et le Avon va à la recherche de celui qui l'a créé, il ne le trouve pas parce qu'il n'y a plus personne. Celui qui l'a créé est devenu un autre. Et du coup, n'ayant pas de nourriture, le Avon crève. Et si la personne n'a pas fait tshuva, alors le Avon va lui prendre sa neshama, c'est l'homme qui va mourir. Alors, une fois que l'homme meurt, quelque part, sa neshama, elle ne va pas vraiment nourrir le Havon, permettre au Havon de persister. Le Havon, il va disparaître aussi. Et la neshama, elle va retourner dans le monde des neshamot. Donc, c'est ça l'idée. La tshuva, elle permet de devenir autre, c'est-à-dire de ne plus être responsable des fautes qui ont été commises. La faute a été commise, mais elle a été commise par X, et on ne trouve pas le X. Le X a disparu. Il est devenu autre, donc il n'est plus là. Maintenant, le problème reste, d'une certaine manière, c'est que c'est bien joli, mais il y a quand même des choses qui ont été cassées. Si on a, je vous ai expliqué dans le Shiurim sur le dimanche, les fautes, elles laissent des traces. Donc quelque chose s'est brisé, mais un neshama, elle n'est pas à sa place. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire Hachem, il va faire en sorte que le Havon disparaisse. Ok. Mais pour autant, ma tête, elle ne revient pas à ça. Ma neshama, elle n'est pas revenue à sa place. Alors, l'explication que je connais, il y en a probablement d'autres, c'est la suivante. En vérité, la tshuva, elle a été créée avant le monde. En d'autres termes, si vous voulez, le monde a été créé dans un espèce d'environnement de tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. L'homme, la créature homme, finalement, elle agit, il va agir dans le monde. Mais le fait que le monde a été créé dans cet environnement de tshuva, environnement de possibilités de réparation, etc., ça a pour conséquence que les actes ne sont pas définitifs. Donc ça, c'est une question, c'est un sujet qui est bien connu. Très souvent, vous, quand vous devez signer un papier très officiel, vous devez écrire « je persiste et signe ». Pourquoi il faut dire « je persiste » ? Parce qu'une certaine manière, c'est une façon de dire « j'ai déjà dit oui, et je répète oui et j'en signe ». Il faut répéter. Parce que la première fois, il n'est pas encore, pas tout à fait certain. On voit bien que l'exigence d'écrire ou enfin, de dire je persiste, ça veut bien dire que ce que tu avais dit avant n'est pas complètement suffisant. D'une certaine manière, ça veut dire que nos actes ne sont pas vraiment définitifs. Dans Chazal, on voit que les actes des ignorants de la Maharetz ne sont pas vraiment des actes qui pèsent. Seuls les actes des Talmidei Chachamim sont des actes qui pèsent. Parce que celui qui ne sait pas vraiment toutes les implications de ses actes. Alors, on ne peut pas dire qu'il est investi dans cet acte-là. Lui, il l'a fait, mais il n'a pas tenu compte de ceci, il n'a pas tenu compte de cela, etc. Le Talmid Chacham, il est censé savoir ce qu'il fait, et lui, ses actes, ils ont du poids. Mais même les actes du Talmid Chacham, par rapport à une certaine action idéale, si vous voulez, de l'être humain, ils sont soumis à « je persiste ». Et donc, c'est ça qu'on nous dit. On nous dit « tu peux faire tchouva », c'est-à-dire tu peux dire « je ne persiste pas ». J'ai fait la chose, c'est vrai. Je me suis trompé, c'est vrai que je l'ai faite. Mais à la réflexion, j'assume pas ça. Ça ne me correspond pas. C'est pas moi. Et c'est ça la possibilité de faire tchouva, parce que les actes ne sont pas définitifs. Sur les actes pas définitifs, alors on peut faire tchouva. En fait, je ne persiste pas. Je veux bien montrer que je suis autre par rapport à celui qui a fait le... Donc, cette possibilité de dire je suis autre par rapport à celui qui a fait la faute, elle est bien réelle, mais elle existe parce que la tchouva a été créée avant le monde. Et parce que tous nos actes sont en quelque sorte soumis à confirmation. En quelque sorte. Est-ce que je confirme vraiment? Donc, est-ce que je suis vraiment... Le problème, c'est de ce dont on a parlé dimanche, je crois, ou si on n'a pas parlé dimanche, on va en parler. Je ne me rappelle jamais ce que j'ai fait avec qui. C'est être à ce qu'on fait, être présent à ce qu'on fait. C'est ça le grand problème. On a beaucoup de mal à être présent à ce qu'on fait. On fait les choses, mais on n'est pas vraiment investi dans les choses. C'est pour ça que, par exemple, dans le vidouille, si je ne suis pas investi dans le vidouille, c'est du blablabla. Le Al-Khed Shechatan Ulfanecha Bevidouille P, ce n'est pas quelqu'un qui est un menteur, un fief et menteur. Quelqu'un qui ne se rend même pas compte qu'en vérité, il n'est pas investi dans ce qu'il dit. Je dis, je regrette d'avoir fait cette chose-là. Est-ce que vraiment tu le regrettes? Est-ce que si tu te retrouves dans la même situation, tu feras autrement? Si tu l'as fait, c'est que c'était tentant, c'est que ça te promettait toutes sortes de plaisirs, de jouissances, etc. Est-ce que tu, pour prendre un exemple banal, effectivement, si on te propose quelque chose à manger qui est très très bon après tout le monde et mais c'est interdit, vraiment tu ne mangeras pas? Tu l'as fait avant, tu as mangé. Et maintenant tu es sûr que tu ne mangeras pas? Si tu as trouvé que ce n'était pas bon, bon alors c'est facile, tu ne feras pas la faute. Mais si tu l'as trouvé très bon, finalement c'était interdit. Mais quand même c'est très bon. Alors est-ce que quand tu fais vidouille sur cette chose-là, tu es vraiment investi dans ce que tu dis? C'est vraiment toi qui dis ça? Tu vas vraiment le faire? Tu vas vraiment te tenir éloigné de cette chose-là? Bon, évidemment, si on ne te le propose pas, ça sera facile. Mais si on te le propose, ça là, personne ne saura. Ça a toutes sortes de choses. Et encore celui-là, il est encore meilleur parce que c'est la bonne année, etc. Ok, c'est... Et donc, c'est ça le problème. Est-ce qu'on s'investit vraiment dans ce qu'on fait? Si vous voulez, on sait bien que on ne prie pas de la même manière un jour normal ou un jour où on demande, je ne sais pas, la guérison d'un proche, etc. On voit bien qu'on ne s'investit pas de la même manière tous les jours. Tu n'investis pas quand ça te tient à cœur De la même manière que quand c'est quelque chose, bon, d'accord, c'est courant. C'est évident qu'on n'est pas investi de la même manière. Mais en réalité, si on, par exemple, pour prendre l'exemple de la prière, si on comprenait exactement ce qu'on fait dans la prière, on devrait être investi tout le temps de la même manière. En tout cas pour les prières courantes, je parle des prières 3 fois par jour. La prière spéciale qu'on fait au milieu de la journée pour la guérison de quelqu'un, bon, bien sûr, on s'investit spécialement. Et donc, c'est ça le grand problème, c'est en particulier dans le vidouille. On comprend bien qu'il n'y a aucun bidouille si je ne m'investis pas dans ce que je dis. Si les décisions que j'ai prises pour le futur, on dit que ça doit être tellement ancien, j'ai tellement travaillé que je pourrais prendre Hachem à témoin que je vais y arriver. Je ne retomberai plus dans cette ornière. C'est possible qu'après je tombe quand même, mais au moins à ce moment-là, je suis absolument décidé, vraiment décidé. Mais est-ce que c'est vrai ça? Je ne sais pas, il me semble qu'on est souvent dans cette situation où je regrette, mais est-ce que je regrette vraiment? On parle de choses qui sont problématiques, quoi. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, il faut savoir que cette paracha de Nitzavim, elle a été dite aux gens qui étaient là sur place, mais c'est marqué dedans, paracha, que nous sommes aussi engagés. Atem Nitzavim, c'est vous et vos enfants, et les gens qui sont là, les gens qui ne sont pas là, les générations à venir. Cet engagement qui a été pris, c'est un brit, c'est une alliance avec Hachem. Savim, c'est une alliance qui nous engage. On est pris dans ces engagements qu'ils ont pris, eux, en leur temps, mais dans lesquels nous, nous sommes aussi engagés. Voilà. Ah, vous avez Teilim. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée,
merci
beaucoup.
Bonne soirée. Merci.
Okay.